Je suis Solange Siri. Je souhaite créer par ce podcast Maman au-delà de l'inceste une énergie nouvelle de richesse et de résilience pour redonner espoir aux mamans qui souffrent dans leur solitude. Ne pas regarder ailleurs en se faisant croire que tout cela n'est rien et qu'on peut bien avancer en laissant cela derrière soi et en même temps toucher du doigt ou de l'oreille du cœur que y arriver et transformer, c'est possible. L'amour, la joie, la paix sont possibles pour les mamans qui ont survécu à l'inceste. Se réunir pour informer, inspirer, éveiller, se reconnaître et s'aimer. Dans la troisième et dernière partie de cet échange lumineux avec Sanara, nous parlerons de la confiance, notamment la confiance dans le couple, et à quel point la confiance en soi en est le ciment. Sanara nous parlera de son orientation professionnelle qui la nourrit et l'épanouit aujourd'hui, tout en étant dans la contribution à l'éveil des consciences des êtres humains qu'elle accompagne. Un véritable cadeau de transformation de ses traumas. Sanara nous parle aussi de Lumineuse Podcast, cette mine d'informations cruciales qu'elle a créée pour aider les survivants de traumas à cheminer vers leur guérison. Et nous allons échanger aussi nos points de vue sur les concepts de résilience et d'acceptation, et nous évoquerons le lien entre la survie au trauma de l'inceste et l'hypersensibilité et les autres profils atypiques. Comme le dit si bien Sanara, on n'est pas condamné à souffrir même quand on a vécu l'horreur de l'inceste. Je te souhaite une belle écoute. De la confiance avec ton fils, la confiance en général, et la confiance dans le couple, comment ça se passe pour toi, ou avec les hommes, ou avec des partenaires particuliers
Alors ça, la confiance dans mon couple, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler juste avant de rencontrer le papa de mon fils, et que j'ai énormément travaillé avec lui. Je lui ai déjà dit, je crois que toi, tu m'as été envoyée à ce moment-là de ma vie, parce qu'on a travaillé ça, mais à fond, ça a été très très dur de faire confiance, parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Alors, avoir confiance en un autre, n'en parlons pas. En plus, pour le coup, je disais tout à l'heure que mon fils est très solaire, très sociable. Mon ex, on peut aller au fin fond du désert de Gobi. On va croiser quelqu'un qu'il connaît. Je n'ai jamais vu ça, c'est incroyable. C'est pas possible. Puis, tu as la sauvage du couple, tu vois, c'était moi à côté. C'était merveilleux. Donc ça a été très, très dur pour moi, la confiance. Et finalement, c'est grâce au travail que j'ai fait avec lui. Ça, j'ai réussi vraiment à m'apaiser. En revanche, je vais être totalement honnête, mais je ne sais pas ce que ça donnerait là aujourd'hui si je me remettais en couple avec quelqu'un, puisque moi aujourd'hui je suis célibataire. C'est quelque chose qui était complètement réglé avec lui. D'ailleurs, je sais aussi par expérience que c'est pas parce que ça a été réglé avec lui à un moment que ce sera forcément tout de suite la même chose avec un autre être humain. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment confiance en moi. Je m'écoute énormément. Même que parfois, on me dit, peut-être que tu t'écoutes un peu trop. Ah ben non, tu vois. Moi, maintenant, vraiment, je m'écoute. Je fais attention à mes sensations, à ce qui me traverse, etc. Donc, j'ai confiance en mes perceptions. Voilà, vraiment. Donc, je pense que ce serait de toute manière, je ne reviendrai jamais au niveau atroce que j'ai pu avoir, si on peut imaginer les choses comme ça pour que ce soit plus simple. Mmh. En revanche, est-ce que ce serait tout de suite parfait? J'en sais rien, je ne sais pas.
Ça, je pense que c'est le cas dans toutes les situations qu'on ait vécu l'inceste ou pas. Mais je me demande si ce n'est pas ça la clé, quelque part, ce que tu viens de dire, cette confiance en toi qui est si solide
peut-être pas inébranlable parce qu'on sait que la vie évolue, on vient d'en parler, mais le fait d'avoir confiance en toi, vraiment de savoir ce que tu ressens et d'avoir confiance en tes perceptions, peut-être qu'est-ce que tu en penses toi, le fait d'avoir une bien meilleure confiance en toi peut te donner confiance en le fait que quand tu auras une nouvelle relation avec quelqu'un avec qui tu as envie d'être vraiment sérieusement, ça se passera comme ça se passera, mais bien.
Alors ça, c'est sûr, il y a de ça. Et il y a aussi que parce que je me fais confiance, si à un moment je sens que ça pue, eh bien, c'est que ça pue. Et je vais m'écouter. Là où plus jeune, très naïve, etc., je me suis laissée embarquer avec des êtres humains, franchement, quasi mythomanes pour certains. Enfin, vraiment, j'ai un CV de ce côté-là qui est vraiment... j'ai été chercher, tu sais, les vrais mauvais garçons. Alors moi, plus ça puait, plus j'y allais en courant, quoi. Et je buvais toujours les paroles, tu sais, mais alors à mon. Alors que maintenant, non. S'il y a quelque chose que je ne sens pas, de toute manière, la porte est grande ouverte. Moi, je n'ai plus de temps à perdre avec ces conneries. C'est-à-dire qu'il faut aussi suffisamment s'aimer pour accepter d'être aimé en retour. Et être aimé en retour, tu ne peux pas être aimé à ta juste valeur par quelqu'un qui est complètement, lui aussi, à côté de ses pompes. Et qui mène une vie qui est tout sauf centrée dans l'amour. Ce n'est pas possible.
Oui, c'est là aussi, je pense que c'est important, et ça, tu le verras avec le temps, hein, de travailler. Mais de toute façon, même si tu n'es pas accompagné particulièrement, toi, tu fais ton travail de ta façon à toi. En plus, on va en parler, là. On va prendre quelques temps pour en parler, si c'est bon pour toi aussi. Hein. On va en parler, mais de ce que tu fais, tes accompagnements et puis le podcast, notamment, te permet, je pense, moi en tout cas dans mon cas, ça m'aide, tout ce que je fais pour les autres, ça me fait cheminer moi, ça me permet d'évoluer. Mais le fait, le fait de rencontrer quelqu'un, quand ce sera le cas, la relation que tu vas vivre avec cette personne-là va encore t'emmener dans un autre travail, une autre épluchure à enlever, plusieurs autres épluchures, voir où tu en es justement dans cette capacité à faire confiance à l'autre, dans la relation amoureuse. Et je pense que c'est peut-être des moments où on peut être amené à avoir besoin d'être accompagné pour voir ces angles morts justement et éviter effectivement ces répétitions de schémas de couple. Parce que tu nous parlais tout à l'heure d'une de tes relations pendant 5 ans, je crois, où tu étais en dépendance affective totale. C'est carrément lié au fait que toi, dans ton histoire d'attachement, à tes figures d'attachement primaires, c'est-à-dire tes parents, il y a eu une carence, et c'est un petit mot de dire une carence. Donc forcément, il a fallu que ton système, comme tu le dis bien, répondait dans cette relation avec cet être-là où ça a été toxique. Je ne connais pas l'histoire, mais quand tu étais dans une dépendance, c'est parce que tu t'accrochais quelque part à quelque chose que tu n'as pas pu résoudre aussi.
Complètement, ah ben oui, à 1000%. Non, lui n'était pas toxique. Enfin, de toute manière, on a été mutuellement toxique en réalité.
Oui,
avec tous. Hein. Ah ben oui, complètement. Sauf pour le coup avec mon ex-mari. Oui, nous avons été toxiques l'un pour l'autre sur une période, mais ensuite on a tellement bossé. Souvent, il m'a dit on a travaillé tellement dur, Sanara, pourquoi on ne se remet pas ensemble? On en rit, quoi, parce que c'est vrai que. Des fois, on se dit c'est assez fou. Mais ouais. De toute manière, toutes les interactions sans exception que tu as avec les autres êtres humains te font travailler sur toi. Toujours, 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 toujours. Peu importe que ce soit un être humain avec lequel tu échanges dans une file d'attente, dans une boulangerie, ou tes amis, tes collègues de travail, même en tant que thérapeute, même les psys, les psychologues, tu attires à toi, tu n'attires jamais à toi les gens par hasard. Toutes les interactions nous font travailler sur nous et c'est en ça qu'elles sont importantes et intéressantes, quoi.
Est-ce que tu veux bien nous partager quelques mots sur ton parcours professionnel? Tu nous as dit que tu accompagnais d'autres êtres humains, comme j'adore t'entendre dire. C'est vrai que c'est très intéressant de t'entendre parler des gens. Nous, on dit souvent des gens. Toi, tu parles toujours d'êtres humains. Comment ça se passe pour toi?
C'est merveilleux. Je suis entièrement en résonance là, tout ce que tu as dit juste avant sur le fait que même que ce soit dans ce que je fais avec Lumineuse Podcast, ça me fait énormément travailler sur moi. Dans les interactions que ça me procure avec les autres êtres, et ben ça aussi, forcément, parce que ça te permet toujours de te regarder à travers l'autre. Et puis, les accompagnements individuels, alors ça, sincèrement, à chaque fois que je me branche, je suis trop contente. Tu vois, vraiment, je suis contente d'y aller. C'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant aussi pour moi Et je pense que c'est à la hauteur de ce que j'essaie, moi, de donner, de transmettre pendant ces entretiens. Et ouais, je m'épanouis à fond là-dedans. C'est trop merveilleux. Et puis, tu sais, aussi, c'est incroyable d'assister à des prises de conscience, à des questionnements, mais honnêtes. C'est-à-dire vraiment d'assister à cette introspection, mais en live, quelque part, et de cet être humain qui se cherche et qui trouve des pièces de puzzle comme ça. Alors, ça, je trouve vraiment que c'est magique. Donc, voilà, je sais plus ce que tu... Tu vois, ça m'enthousiasme un peu trop, je ne sais même plus...
Oui, tu as les yeux qui pétillent quand tu parles de ton travail de thérapeute, alors c'est ça, tu es thérapeute?
Ah oui, c'est ça. Ouais, bah. D'accord. Non, c'est pas évident pour moi, moi je me conçois vraiment comme une accompagnatrice temporaire, quoi. Donc oui, je suis thérapeute parce que c'est ce qui est écrit, on va dire, sur mes diplômes et sur, c'est aussi ce que j'ai mis sur Instagram, mais pour que les êtres humains qui arrivent sachent à peu près... Tu vois, faut se situer, quoi, malheureusement. Hein, on est toujours obligé de se mettre dans des cases. C'est assez terrible. Mais je ne me considère pas vraiment comme un thérapeute. En revanche, je me considère, oui, comme une accompagnatrice temporaire. Et puis, voilà, pour aider cet autre à mettre de la lumière là où parfois, tout seul, c'est un peu difficile d'aller regarder, mais c'est normal. C'est complètement normal.
Et donc, avec Lumineuse Podcast, quel était ton projet? Que tu peux nous en parler?
Mon projet initial, c'était de transmettre toutes les informations que j'avais moi-même réussi à récolter sur tout ce qui touchait à l'amnésie traumatique, la dissociation traumatique, etc. Pour moi, ma grande inspiration, ça a été Muriel Salmona. Hein. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est un peu la papesse, quoi, que ce soit ses ouvrages ou que ce soit les conférences qui sont libres d'accès et gratuites sur YouTube. Allez-y, faites-vous plaisir, on y apprend énormément. Et donc, c'était aussi un peu de vulgariser certains concepts qui peuvent sembler hyper compliqués, alors qu'en fait, non, il n'y a rien de compliqué du tout. Et ce sont des concepts importants à entendre et à comprendre pour cheminer vers sa guérison. Parce que comprendre factuellement comment ça se passe une dissociation, une sidération, une amnésie, comment ça se passe aussi la sortie d'amnésie, enfin, tout ça, c'est hyper important. Et moi, je me suis sentie tellement démunie, tellement seule lorsque ça m'est arrivé, que j'ai eu ce truc de non, mais je veux plus jamais que quelqu'un se sente seul face à cette montagne, quoi. Donc, voilà. Et puis après, avec le temps, je me suis mise à inviter des êtres humains. Toi aussi, tu es venue sur Lumineuse, sur le Merci. On avait fait un épisode merveilueux ensemble. Donc, tu vois, ça s'enrichit au fur et à mesure. Ça évolue aussi au fur et à mesure. Bizarrement, je ne parle pas tant que ça de moi. Alors oui, je sème des choses un peu par-ci, par-là. Mais ça met toujours mal à l'aise de parler de moi. Donc, c'est merveilleux parce que c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui.
Merci. Merci pour ta confiance.
Oui, c'est ça. Et donc, voilà, j'essaie de transmettre un max d'informations et toujours dans la lumière et dans l'amour. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à pleurer sur notre sort toute notre existence. Ça, c'est pas vrai. On ne s'est pas incarné pour souffrir toute notre vie. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, voilà, c'est tout ça que j'essaie de transmettre. Au mieux, j'essaie en tout cas.
Magnifique, on ne s'est pas rencontrés pour rien.
Ah, ben ça c'est sûr.
Ouais, c'est magnifique. Et justement, moi je pense vraiment que, bon, tu sais, on parle beaucoup de résilience, moi c'est un de mes concepts favoris, et en même temps je sais à quel point dans mon cas, et certainement dans le cas de beaucoup de personnes traumatisées, notamment d'inceste, la résilience, ok, c'est magnifique, mais je trouve aussi que ça, si on ne fait pas gaffe, ça a aussi des défauts. C'est un côté très... un revers important, c'est qu'on s'adapte tellement à l'autre qu'on s'en oublie complètement. Et ça, c'est très, très dangereux pour nous qui sommes déjà assez dissociés, complètement dissociés. Enfin, ça dépend du stade.
Tu sais, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Et alors, moi, je n'emploie jamais le mot de résilience. Moi, je parle d'acceptation. Mais au final, c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose. C'est juste que acceptation me parle plus. Et en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et selon moi, et ben, ça dépend de quel endroit à l'intérieur de toi-même tu es dans la résilience ou l'acceptation. Hein. Est-ce que c'est de l'endroit un peu là où il y a tous tes personnages que tu t'es construit pour survivre, hein, ou est-ce que c'est vraiment de cet endroit qui se rapproche au plus près de toi-même? Voilà. Et être dans l'acceptation ou la résilience et juste mettre sous le tapis, ah ben non, ça c'est pas de l'acceptation, c'est pas de la résilience du tout. Tu vois. Donc c'est hyper important ce que tu viens de dire, oui.
Parce que malheureusement, effectivement, la vie nous le renvoie, comme on disait tout à l'heure, en pleine face et en pleine force, quand on a si bien caché les choses sous le tapis, à un moment donné, le tapis crève. Et ça dégouline de partout.
C'est ça, tout toute ta vie que tu construis, c'est-à-dire qu'il y a une image que je prends souvent en consultation avec les êtres humains que j'accompagne, c'est que quand tu fous sous le tapis, c'est génial, tu te retrouves avec une immense bosse dans ton salon, hein, et puis tu vas agencer tes meubles autour comme tu peux. Alors, le travail, c'est de lever le tapis, aller virer tout ce qu'il y a en dessous, hein, mais du coup, on va bien le regarder, et puis on va en faire quelque chose. Et après, c'est merveilleux, parce que ta pièce, tu peux la décorer comme tu veux. Hein. Pas comme tu peux, mais comme tu veux. Et bien, ça change tout. C'est toi qui choisis. Ouais. Oui. Du coup, je te remercie de l'avoir dit, parce que c'est hyper important.
Ouais. Non, mais c'est pour ça que pour moi, la résilience, oui, c'est beau, puis on en parle tellement en ce moment, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode. Mais il faut faire attention, parce que résilience, souvent, pour les gens, c'est juste, je suis tombée, je me relève, j'avance. Et il y a aussi du travail à faire, de regarder effectivement qu'est-ce que ça a dû déclencher, quelles sont les stratégies qu'on a mises en place et qui nous ont éloignés de celle et celui qu'on est vraiment. Et voilà, à force de vouloir avancer, s'adapter, on s'oublie quoi, sur le chemin.
Et aussi, il y a quelque chose, j'en parlais hier avec un ami, et ça, je pense que ça vient de l'éducation que nous avons tous eue et de la société en général. C'est qu'on vit dans une société qui ne supporte pas la souffrance. C'est une société hypocrite. C'est-à-dire que tout le monde va courir, regarder des films, des séries pour vivre des émotions fortes sur de courtes périodes. Et puis ensuite, on refuse de voir la souffrance. Hein. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, on va chouiner un peu devant 5 minutes, mais après on s'en fout. Dans nos quotidiens, nous, c'est exactement la même chose. Hein. Lorsqu'on est face à des êtres humains qui te disent « Bon, bah, ça y est, maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Ça va, quoi. » Ouais. En revanche, je pense quand même qu'il y a une vraie posture à avoir dans la souffrance. Il faut accepter d'avoir mal. Il faut accepter de le vivre pleinement, ce truc qui t'arrache les tripes de l'intérieur. Et que tant que tu ne passes pas par cette étape de le vivre pleinement, tu ne pourras jamais le libérer. Tu ne peux pas le libérer parce que tu ne le connais pas. Tu le fuis, tu te caches, tu refuses. Eh bien non. Et finalement, lorsqu'on entend même dans le développement personnel, la spiritualité, accueillir ses émotions, en fait, c'est exactement de ça dont il s'agit. Et même dans la souffrance, il y a une certaine posture à avoir. Et parfois, oui, c'est terrible, mais il faut accepter de vivre la souffrance. Il faut accepter de l'incarner pleinement.
Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Et de se laisser traverser et de le traverser aussi. Ça demande du lâcher prise et de la confiance. Et je pense quand même de l'accompagnement assez compétent et rigoureux quand même, je pense vraiment. Alors, pour aller au bout de cette question, qu'est-ce qui, selon toi, comment est-ce que tu as transformé, est-ce que tu penses avoir transformé ton trauma, tes traumas, et si oui, de quelle manière pour toi?
Alors, oui, déjà, ne serait-ce qu'avec la création de Lumineuse et tout ce travail, là c'est carrément ça. C'est là où on prend la substance qui est toute pourrie, toute noire et qui sent mauvais et on en fait quelque chose de très beau et en plus qui aide l'autre. Donc, en ce sens, oui. Est-ce que j'ai transmuté tous mes traumas? Non. Mais franchement, si un jour tu rencontres un être humain qui te dit « ça y est, je suis arrivée », fuis. Vite et loin parce que ce n'est pas possible. Hein. Toute notre vie, le travail d'introspection ne s'arrête jamais, jamais, jamais. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail d'une vie. Hein. Donc voilà, oui, mais je pense que, en tout cas, je me sens bien dans ma vie, ça c'est sûr, je me sens vraiment bien, je suis bien aussi dans mon corps, je vais bien. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que je suis sur le bon chemin. Est-ce qu'il y aura encore des embûches? Oui. Est-ce qu'il y aura encore des moments difficiles? Oui. Mais voilà, ça fait partie du chemin.
Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et en tant que maman, est-ce qu'il y a des choses que tu penses être à même d'apporter, de partager à d'autres mamans, justement, qui sont passées par là et qui sont peut-être encore engluées dans un état de difficulté?
Oui. Eh bien, quelque chose de très important, on en a beaucoup parlé, mais vraiment, je pense que c'est une clé importante. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que quelque chose cloche. Non, mais vraiment, c'est très important. Il faut s'écouter. Quasiment, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à un être humain, de s'écouter. Parce qu'au fond, toi, tu le sais. Hein. Hier, je discutais avec une maman qui est qui ne se rappelle pas de tout. On va dire qu'elle est dans une amnésie traumatique plutôt perméable et elle a de grosses difficultés avec son bébé. Elle a des problèmes pour donner le bain, elle a des problèmes pour plein de choses comme ça. Et elle me disait, mais parfois j'ai l'impression d'être folle et de trop en faire, quoi. Alors que non, c'est le bourreau intérieur qui dit qu'on est fou et qu'on en fait trop. Hein. Une souffrance, lorsqu'elle est là, qu'elle est palpable, elle est légitime. Et les doutes aussi sont légitimes. Ne pas hésiter à en parler avec son conjoint, sa conjointe, sa partenaire. Si besoin, ne surtout pas hésiter à aller consulter quelqu'un pour pouvoir avoir un regard extérieur et confier un peu ce qu'on a sur le cœur aussi, ça fait du bien. Mais se faire confiance, c'est la priorité absolue, quoi. Franchement.
Mmh. Ouais. Je suis d'accord. La confiance, elle est tellement importante. Alors, est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu as une idée de les endroits où tu penses que tu as encore de l'évolution et tu aimerais que les choses évoluent encore un peu plus?
Oui. J'en découvre. J'apprends à les voir. Il y a toujours ce travail d'être honnête. Et en fait, rien que ça, être honnête avec soi-même, c'est un travail à part entière. Ça demande du temps. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir un souci. Je prends un exemple tout bête. Un problème avec ma mère. J'ai un problème avec ma mère, il y a quelque chose à soigner de ce côté-là. Mais bon, je ne comprends pas. J'ai déjà beaucoup travaillé sur ça, même en thérapie. Donc, je ne comprends pas. Et finalement, tu sais, c'est le fameux oignon dont tu parlais tout à l'heure. Mais tu te rends compte que si il te reste bien quelque chose à travailler, c'est juste que tu n'as pas encore été suffisamment honnête avec toi. Et ce qui fait que tu n'as pas vu exactement l'endroit qui était à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, il va t'arriver un déclic parce que tu auras déjà beaucoup cheminé sur d'autres paramètres, parce qu'il y aura des choses dans ta vie qui auront changé, que tout à coup, ça y est, tu seras prête à voir avec franchise cette chose-là. Et là, ça va se libérer. Voilà. Et là, tu vas le voir et là, c'est tout le travail de je te vois, je te regarde, je prends ce qu'il y a à prendre et après, je laisse partir parce que de toute manière, ce qui est arrivé est arrivé. Hein. On n'a pas la machine à remonter le temps pour retourner en arrière et changer quoi que ce soit. Donc, on ne peut qu'accepter pour ensuite avancer, quoi. Mais avancer en conscience de tout ça. Donc, oui, je continue à cheminer. C'est pour ça que je te disais que je ne doute pas que je finirai par trouver un être humain adapté. Et en attendant, je continue mon auto-travail, plus évidemment le travail de mon entourage qui en fait, on fait ça les uns pour les autres. C'est assez fou d'ailleurs quand on y pense. Hein.
Ouais. Et concrètement, est-ce que je te demande pas de nous raconter toute ta vie, mais est-ce que tu as des points particuliers où tu sais, par exemple, je sais pas, oui, dans la maternité, je voudrais que ça et ça, ça évolue et j'y travaille ou en tout cas ça viendra. Est-ce que tu as des...
Mon fils est tout petit. Donc pour l'instant, le stade que j'ai réussi à atteindre à l'instant où je parle, moi, me convient. Mais je sais qu'il y aura plein de choses à travailler, mais ça va arriver avec le temps et du coup, je ne les connais pas encore parce que je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Par exemple, tiens, un truc récent qu'il m'a fallu travailler avec mon fils, et quand j'ai été confrontée à ça, je me suis dit, c'est la panique, comment ça marche? C'est qu'il y a une période où il était hyper agressif, à m'envoyer balader, mais alors d'une violence inouïe, et moi, je ne comprenais pas, à remettre en cause et en question absolument tout. Alors, je ne suis pas en train de parler de la phase du non qui traverse tous, tu sais, vers 2-3 ans. Non, là, c'était autre chose. C'était plus profond. C'était différent. Et je ne comprenais pas. Et donc, j'ai commencé à me torturer l'esprit, à savoir pourquoi, comment, etc. Et en réalité, c'était quelque chose que lui vivait dans sa petite vie de petit garçon avec ses copains et ses copines. Donc, tu vois, il y a ça aussi. C'est que nous, tout de suite, tout est de notre faute. C'est de notre faute, c'est ma faute si mon fils n'est pas bien, s'il est comme ça, etc. Alors qu'en fait, là, ça n'avait rien à voir. La manière dont il se comportait avec moi était la conséquence de quelque chose que lui vivait à l'extérieur. Et oui, nos enfants ont une vie en dehors de la vie qu'ils ont avec nous. Mais non, mais mine de rien, ça a été une révélation, mais entière pour moi. C'est-à-dire que oui, je le savais bien qu'il avait une vie à l'école avec ses amis, sa maîtresse, etc. Mais là, j'ai pris conscience que lui aussi, il vivait sa petite vie, ses émotions, ses propres difficultés, et que comme toute interaction avec les êtres humains, ça avait aussi un impact avec ma relation à lui, quoi. Oui. Et ça, ça n'a pas été facile. Hein. Mais bon, du coup, j'en ai beaucoup parlé avec son père qui m'a regardé comme ça et qui me dit « Ben oui, ça n'a C'est des fois, tu te dis, mais ils te prennent pour une tarée, les gens, quoi. Mais bon.
Non, mais je te comprends tellement parce que c'est vrai que dans notre parcours, on prend beaucoup sur nous. On a toujours pris sur nous. On a été l'objet d'une personne. On a été l'inverse de tout ce qu'on peut imaginer d'une enfance, d'un enfant. On a été adulte bien trop tôt. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de pas se dire que tout est lié à nous aussi, de façon un peu pathologique.
Non, mais complètement.
S'il y a quelqu'un un problème en face, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les relations incestuelles, dans les relations incestes avec les parents, etc. C'est que comme tout ce qui se passait était forcément lié à nous, hein, nous, en tout cas, c'est construit comme ça, que du coup, c'est un mécanisme qu'on garde ensuite à l'âge adulte. C'est terrible.
Oui, puis c'est vraiment une pathologie, mais c'était une stratégie de survie de pouvoir s'adapter constamment aux demandes, même de prévoir à l'avance les demandes ou les réactions, comment fonctionne. Moi, je sais que je me suis énormément... D'ailleurs, je me suis toujours dit que je serais un jour un espion aussi, parce que tellement j'étais douée à faire attention, à ne pas faire de bruit pour ne pas alerter, je suis là dans mon coin, tu peux, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui ont fait que j'étais très, très alerte, avec tous mes sens en éveil, tout en étant dissociée, mais tout faire en sorte pour être hyper active, hyper réactive, hyper efficace, pour surtout pas sombrer dans la prison, quoi.
Et c'est pour ça qu'ensuite, ça donne des gens hypersensibles. Il y a beaucoup aussi de hauts potentiels, que ce soit intellectuels ou émotionnels. On en retrouve énormément. Moi, j'ai tendance à dire que les HP sont des traumatisés qui s'ignorent, pour ceux qui s'ignorent. Ouais. Donc, du coup, c'est complètement ça. Donc, c'est vrai que tu es branché sur un mode survie qui te fait comme ça être hyper, hyper vigilant. C'est terrible. Ouais. Et sortir de cette hypervigilance demande du temps. Et parfois, on en sort dans certains domaines de notre vie. Bon, il y a énormément de domaines aujourd'hui sur lesquels je suis hyper à l'aise et hyper apaisée. Et d'autres où ce n'est pas encore le cas. Mais c'est OK, ça va venir avec le temps, quoi.
Et en même temps, je me dis que c'est aussi, encore une fois, ça dépend comment on a évolué, où on en est, et comment on s'autorise à le voir. Mais pour moi, c'est aussi des cadeaux. Je dis que je suis hyper débrouillarde, que je suis efficace et rapide sur plein de trucs, des fois un peu trop parce que ça énerve tout le monde et je ne peux pas laisser rentrer quelqu'un qui voudrait m'aider parce que je sais que je l'aurais fini avant de lui expliquer comment on fait. Mais bon, voilà, n'empêche qu'on se débrouille, quoi. Il y a plein de belles choses
à
voir.
Nous n'allons pas reprendre cette conversation. parce que je suis d'accord. Non, mais en fait, je suis obligée de rire parce que, clairement, je raisonne totalement parce que c'est mon cas aussi. Donc, je comprends quand tu dis ça. Mais je pense que là, on a un biais. Et qu'en réalité, prendre le temps même d'expliquer à quelqu'un une bonne fois pour toutes, et ben derrière, ça peut nous soulager, quoi.
Oui, absolument,
ça,
je suis d'accord.
C'est un travail, mais c'est
j'ai beaucoup
en cours
évolué.
De chargement.
Voilà, c'est ça, en cours, et c'est dans le process, quoi. Et c'est très, très, ça nous apprend aussi, nous, à nous autoriser à parler avec l'autre, à nous ouvrir, à prendre le temps. Et à se rendre compte que d'autres personnes peuvent le faire, même si elle ne s'est pas fait comme toi, tu voudrais, même si... Voilà, lâcher prise.
Et ça, dans la maternité, quelque chose dans la maternité qui est important, c'est... j'avais beaucoup vu autour de moi, la plupart de mes amis ont eu des enfants avant moi. Et aussi parce que mes amis sont tous beaucoup plus âgés que moi. Donc, ils avaient eu des enfants bien avant. Et il y avait quelque chose que j'avais repéré chez mes amis, donc femmes, en couple avec un homme... c'était qu'elle ne laissait jamais rien faire à cet autre, que lorsqu'il faisait, ça ne leur convenait pas, et donc elle repassait derrière jusqu'au point où le gars, à la fin, il ne fait plus rien, et donc tu te retrouves avec ton amie qui se plaint parce qu'elle a tout sur ses épaules et qu'elle n'en peut plus ses côtes parce que c'est trop dur, quoi. Et ça, tu vois, j'ai appris de l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça, je me suis dit non. Et ça a été un vrai challenge. C'est que quand on a eu notre petit garçon... Et bon, dès que je suis rentrée de la maternité, j'ai dit à son père, bon, bah allez, ce soir, c'est toi qui lui donnes le bain, tu l'habilles et tout, tu te débrouilles. Et j'étais à côté, je me rongeais les ongles, parce que la manière dont il le prenait, moi, ça ne m'allait pas. La manière dont il le baignait, moi, ça ne m'allait pas. Les vêtements qu'il avait choisis, ça ne me plaisait pas. Enfin, rien n'allait, quoi. Mais j'ai rien dit, parce que j'arrêtais pas de me répéter, si tu commences tout de suite, t'es foutue, quoi. Hein. Et finalement, je suis super contente, parce que C'est pas parce que l'autre fait pas comme nous que c'est mal fait ou moins bien fait. C'est pas vrai. C'est juste une autre façon de faire et c'est à sa façon et c'est très bien aussi. Ça permet aussi à cet enfant d'être beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus cool. Dans le sens où s'il n'y a qu'une seule manière de faire, que c'est très militaire, ça peut être hyper anxiogène quand tout à coup ça se passe plus comme ça.
Bien sûr.
Tu vois.
Et puis la diversité est une richesse.
Oui.
Mais j'apprends moi aussi encore, hein. Je suis dans le processus de laisser faire les autres à leur façon et me dire que c'est pas mal fait, c'est juste fait différemment.
Ouais, sur les enfants c'est hyper important et ça retire une vraie charge mentale sur le long terme, donc c'est important, oui.
Ouais, très précieux. Sanara, c'est passionnant, je passerai des heures encore à parler avec toi de tout ça. vraiment, merci beaucoup pour toutes ces pistes hyper lumineuses. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me partager là ?
Non, je veux juste te remercier Solange pour ce joli moment passé ensemble. Merci pour tout et longue vie à ton très beau projet, vraiment.
Et au tien aussi, à tous tes projets. Et vraiment, je souhaite que beaucoup d'êtres humains, comme tu le dis, viennent te découvrir et te rencontrer.
Oh, merci Solange.
Pour être accompagnés dans la lumière, parce qu'on en a, voilà, il y a tant de personnes qui ignorent qu'ils ont besoin de cette aide et de cette lumière. Et on a beaucoup à apporter aux autres êtres humains. Donc, merci beaucoup.
On n'est pas condamné à vivre dans l'obscurité, loin de là. Oui.
Absolument. Voilà, c'est important, effectivement. On n'est pas condamné à souffrir, même quand on a vécu l'inceste. Même quand on a encore des difficultés, même quand on est dans les difficultés, qu'on est maman et qu'on se sent dans le désespoir parce qu'on se dit plein de choses, on n'est pas condamné à ça. Donc, n'hésitez pas à écouter les podcasts, le podcast de Sanara, Lumineux Podcast, le podcast Maman de l'inceste et à vous faire accompagner si besoin.
Merci Solange.
Merci beaucoup Sanara et à très bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai hâte de lire ce que nos échanges t'ont apporté, peut-être inspiré ou interroger, voire bousculer, n'hésite vraiment pas à me partager ton retour, ce que tu en as ressenti, tes commentaires ou tes questions. Tu pourras retrouver toutes les coordonnées de contact avec moi ou avec Sanara en dessous de l'épisode, dans les détails et en descriptif. À très bientôt pour la suite du podcast Maman au-delà de l'inceste.